Voilà donc chronique de la clim comme prévu, avec tout d'abord quelques news du centre de rétention de Cornebarieux. Donc aujourd'hui, 53 personnes sont retenues au centre de rétention. La semaine a été chargée en événements. D'abord, il y a eu une grève du travail des policiers du centre de rétention qui sont mis en arrêt maladie pour contester le sous-effectif. Plusieurs articles savoureux sur la crise de nerfs de la PAF de Toulouse et sont en ligne. Et donc voilà. Bah,
Oui, alors,
mauvais courage à eux, peut-être.
peut-être on peut en dire deux mots. Alors, en fait, oui, ils sont très, très fatigués. Enfin, je veux dire, ils font un travail très, très dur. Donc, les syndicats dénoncent leurs conditions de travail, leur surcharge de travail. Ils font beaucoup trop d'heures. Par exemple, la dépêche du midi du 22 avril titrait « Centre de rétention, les policiers au bord de la crise de nerfs ». Donc voilà, on peut y lire que les deux tiers des policiers affectés au centre de rétention de Cornebarieux sont en arrêt maladie depuis lundi. Donc les syndicats sont vraiment remontés. Ils utilisent des mots chocs tels que « usés, déprimés, au bord du burn-out ». Les personnels policiers du centre de rétention administrative de Cornebarieux n'en peuvent plus. Donc voilà, c'est clair, ils n'en peuvent plus. Il y a quand même des petites citations qui sont assez croustillantes de la part de personnel du syndicat Unité. Par exemple, il nous dit qu'un personnel de l'unité d'éloignement peut très bien partir de Toulouse à 8h le matin. Et attention, revenir le soir de Casablanca à 23h. Et le lendemain, le gars, il devra rembaucher à 8h.
Ben ils ont qu'à démissionner.
Donc, alors là, on dit, pauvre chouchou.
Ils reviennent.
Voilà, eux, au moins, ils reviennent. Parce qu'en fait, ils sont partis, c'est qu'ils ont expulsé des personnes qui, eux, ne reviennent pas et n'avaient pas décidé de partir et n'étaient encore moins pas payés pour ce petit trajet.
En fait, il n'y a personne qui veut partir et pourtant, tout se passe, quoi.
C'est ça. Donc, on peut peut-être lui dire à ce charmant policier et à ses collègues que, par exemple, aujourd'hui, il y avait aussi un rassemblement organisé par RESF devant une école de Toulouse, au 7 rue F de Lesseps, au Pradette, contre l'expulsion d'un homme enfermé au centre de rétention et papa de deux enfants qui étaient scolarisés dans cette école. Donc, peut-être on peut juste un petit peu nuancer les propos de ces bips de policiers. Donc, voilà. On peut aussi mettre en parallèle, outre les menaces d'expulsion des surpopulations carcérales, on peut aussi leur dire les violences policières que les retenus subissent dans ces centres et sous vos yeux, et donc hyper protégés par les barrières et les barbelés. Donc voilà, j'ai commencé une phrase que je n'ai pas réussi à terminer, mais en fait je suis hyper énervée parce qu'il y a aussi un autre site internet qui s'appelle Côté Toulouse qui reprend ces mêmes arguments des syndicats de la PAF, donc Police aux Frontières, et il y a un magnifique petit tract pour le centre de rétention de Cornebarieux, avec des gens qui se tiennent la tête dans les mains, une dame avec la tête dans une corbeille de papier. Enfin, c'est très étrange, on ne sait pas trop ce qu'ils font au centre de rétention, mais en tout cas, ils nous disent « fatigue, stress, pression, burn-out, deux tiers des effectifs en arrêt maladie ». Donc on s'inquiète pour eux, donc on leur dit « écoutez les gars, c'est facile, démissionnez ».
C'est ça. Et du coup, on a eu d'autres cas assez emblématiques, dont le cas de Monsieur Jovanovic, Rome de Yougoslavie, né en Italie, donc autant dire inexpulsable, qui est bloqué au CRA alors que sa femme a accouché avant-hier à Purpan. Donc il n'a pas pu assister à l'accouchement et a suivi l'accouchement de sa femme au téléphone dans le bureau de la CIMAD au centre. Donc elle va sortir de l'hôpital et elle ne parle pas un mot de français, elle est seule, sans abri, mais la préfecture refuse de le laisser sortir et attend une réponse pour un laissez-passer pour la Serbie, qui n'arrivera donc jamais.
Et puis Tayeb aussi, marocain, 50 ans, il est entré en France il y a 8 ans pour suivre son épouse de nationalité française. Il se sépare mais sa vie reste en France. Il y a 2 jours, il est interpellé en allant travailler pendant un simple contrôle d'identité. On imagine que sa gueule, elle n'a pas dû passer inaperçue non plus. Il est en voie de reconduite au Maroc alors qu'il vit à Toulouse depuis 8 ans. Il travaille comme chef d'équipe dans un garage auto-toulousain. Bref, il déclare qu'il paye ses impôts, il cotise à l'URSSAF, il paye son loyer, mais on lui refuse juste des papiers, tout simplement, donc il est au centre de rétention.
Voilà, une autre histoire. Un homme qui prend le train pour rendre visite à sa compagne en Ariège. Il se fait chourer son sac, il va au commissariat à Foix pour faire une déclaration de perte. Et mauvaise idée, direction le CRA. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a été libéré au JLD à l'instant. Poupou !
JLD, donc c'est le juge des libertés et de la détention. Et puis, du coup, hier, quand même, au centre de rétention, il y a eu la visite de Jacques Toubon, voilà, défenseur des droits. Peut-être qu'on va laisser, enfin, on va peut-être dire deux, trois mots sur Jaco.
Alors, Jaco, oui, on s'étonne qu'il soit défenseur des droits. Déjà, on ne connaissait pas très bien ce statut, qu'est-ce qu'un défenseur des droits. Donc, il est DDD, comme on dit dans le jargon, depuis le 17 juillet 2014. Et c'est un statut, un poste un peu controversé, mais qui a quand même été approuvé par l'Assemblée nationale et le Sénat. Et donc, on regarde un peu, c'est qui ce Jacques Toubon ? Bon, il a un peu fait plein de trucs, mais notamment, il a été garde des Sceaux de 95 à 97 dans les gouvernements Juppé. Il a parfois été inquiété par la justice pour des prises illégales d'intérêts en 2000, et il sera blanchi. Il bénéficiera d'un non-lieu en cour d'appel en 2003. En 2005, on apprendra également qu'il est nommé président du groupement d'intérêt public de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Et il est nommé en 2009 par Sarkozy à la tête de la mission pour préparer et assurer la mise en œuvre d'une initiative, attention, 2010, année de l'Afrique. Alors pour ce faire, il s'est rendu par exemple à Brazzaville, au Congo, pour les élections de juillet 2009, lors desquelles Denis Sassou Nguesso a été confortablement réélu. Alors bon, on ne connaît pas très bien tout ça, mais on apprend en allant regarder un petit peu sur le site de Survie, qui est une association, un collectif qui travaille autour des questions de la France-Afrique, que ce cher Denis Sassou Nguesso est quand même déjà sur le podium des dictateurs france-africains les plus criminels. Il est réélu, certes, mais avant ces élections, il était revenu au pouvoir par les armes suite à la guerre civile de 1997. En effet, les urnes lui avaient retiré le pouvoir 5 ans plus tôt. Donc on est très très content que des délégataires, des représentants comme Jacques Toubon puissent vraiment participer à ces élections.
Bien sûr,
et voilà.
Et puis c'est bien qu'ils viennent après dans les centres de rétention voir ce qui se passe de bien et ce qui se passe de mal.
C'est ça, puis un jour t'es garde des Sceaux, ministre de la Justice. Hein, tu t'occupes du business, et puis le lendemain, après, t'es défenseur des droits, puis tu vois ce qui va pas. Enfin, en tout cas, très certainement, dans cette histoire, il y a quelque chose qui ne va pas. En tous les cas, il a été reçu au centre de rétention de Cornebarieux. Et alors, qu'est-ce qu'il s'est dit ?
Il n'est pas resté longtemps, apparemment, il est allé voir les gens de la CIMADE, il est resté une demi-heure dans le bureau, et puis il est reparti, quoi.
Voilà. Il a dit, effectivement.
Voilà. C'est vrai que c'est une prison, quand même. Voilà. Bon, ben voilà, c'était les news du centre de rétention. On va passer rapidement à autre chose. On parle pas mal des morts en Méditerranée en ce moment. Pour introduire un peu, on va en parler, puisqu'il y a eu un rassemblement hier qui avait été appelé par plusieurs collectifs, dont la CLIM. Mais juste pour introduire un petit peu sur qu'est-ce que Frontex, il y a un petit son qu'on a voulu vous diffuser, qui est en fait la bande-son d'une vidéo qui est réalisée par Datagueule. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos de Datagueule sur Internet. Il s'agit de la vidéo qui s'appelle Frontex de Datagueule. Donc on écoute ça dure deux petites minutes.
Lorsqu'un policier intervient en urgence, il fait rarement dans l'humanitaire. Bonjour. Voici Frontex, l'agence européenne de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne. Rien que ça. Créée par l'Europe en 2004, Frontex surveille nos frontières, au pied desquelles viennent mourir des milliers de migrants chaque année. Les frontières sont l'affaire des États depuis toujours. Pour l'Europe, les choses changent en 1997 avec l'ouverture de l'espace Schengen. Depuis, les citoyens européens peuvent se balader librement au sein de l'Union. En échange, les pays s'engagent à coopérer sur plusieurs plans, policiers, judiciaires et bien sûr le contrôle de l'immigration clandestine. D'après Frontex, plus de 107 000 hommes, femmes et enfants ont tenté d'entrer en Europe en 2013. 48% de plus que les 72 437 annoncés en 2012. Presque le double. Tremblez, l'invasion est imminente. Mais enlevons les œillères pour regarder au-delà. En 2011, ces mêmes migrants illégaux étaient 141 000. Et en 2008, presque 160 000. Ces 5 dernières années, cette immigration clandestine est donc en baisse. Mais ce n'est pas le cas du budget de Frontex. Entre 2004 et 2013, il est passé de 6,2 à 85 millions d'euros, près de 14 fois plus en 10 ans. En 2010, elle disposait de 13 navires, 25 hélicoptères et pas moins de 22 avions. Et ce n'est pas tout. Depuis le 2 décembre 2013, notre belle Union est un peu mieux protégée grâce à Eurosur. Ce système européen de surveillance observe nos frontières à grand renfort de drones, satellites ou encore hélicoptères. Le tout pour un budget de 244 millions d'euros d'ici à 2020. Pendant ce temps, depuis l'an 2000, plus de 23 000 migrants sont morts aux frontières de notre Europe. Et encore, bon nombre de disparus ne laissent pas de traces. Cette estimation pourrait bien être multipliée par 3. Mais aucune de nos institutions, Frontex ou autres, n'a jugé utile de les dénombrer. Après tout, ces morts ne sont plus des migrants. Sur les seules 5 dernières années, ils sont 4000 à avoir perdu la vie en tentant de traverser la Méditerranée. Là encore, un chiffre en deçà de la réalité. Celle que l'on appelle aussi la mer du milieu est devenue un champ de bataille, engloutissant les corps. Mais heureusement pour celles et ceux qui survivent à la traversée, les drones européens sont là pour les ramener à bon port. Frontex a d'ailleurs passé des accords avec un certain nombre de pays frontaliers de l'Union, dont la Libye par exemple. Ainsi, les migrants illégaux peuvent être renvoyés sur d'autres terres avant même d'atteindre les nôtres. Une manière d'externaliser le problème de l'immigration. Les camps sont toujours moins visibles chez les autres. Allez, soyez rassurés. L'Europe veille sur vos frontières. La clôture étant de plus en plus chère, elle doit forcément être de plus en plus sûre.
Voilà, merci Frontex.
Voilà, bah c'était un peu dur à digérer là, tous ces sons, c'est un peu dur à digérer, mais bon voilà, en tout cas.
Et puis
ça
vous pouvez, oui, puis vous pouvez les réécouter aussi sur le blog de la Clim.
Et bien sûr, évidemment.
Clim avec un e. Noblogs, noblogs.org.
Merci pour la référence.
Écoutez, pour vous servir. Voilà, on va enchaîner sur un retour en fait du rassemblement qui a eu lieu hier à Jean Jaurès à 18h. Tout de suite.
Non. Pas un naufrage, pas de flicage, une solution, la libre circulation. Pas un naufrage, pas de...
La France et l'Europe prétendent vouloir sauver des vies alors qu'elles empêchent par la force et les armes les migrants de traverser les Méditerranées, les confiant à des pays en guerre, voire gouvernés par des dictateurs dans lesquels leurs droits fondamentaux sont niés. Tant qu'il y aura des persécutions, de la misère et des guerres entretenues par les pays occidentaux, les personnes continueront à fuir. Sans que les inégalités entre le Nord et le Sud, dont profitent largement la France et l'Europe, n'auront pas disparu, les personnes continueront d'essayer de traverser les frontières. Ajouter toujours plus d'obstacles à ces traversées ne peut qu'augmenter le nombre de morts et de tragédies. La France et l'Europe doivent respecter la liberté de circulation et d'installation de chacune et stopper la guerre meurtrière qu'elle mène aux migrants. Les frontières fuient, à bas les frontières.
Ouais, qu'est-ce qu'on veut ? Des paquets !
Pour qui ?
Pour tous ! Mais qu'est-ce qu'on veut ?
Des paquets !
Pour qui ?
Pour tous !
Mais qu'est-ce qu'on veut ?
Des paquets !
Pour qui ?
Pour tous !
Mais qu'est-ce qu'on veut ?
Des paquets !
Pour qui ?
Pour tous !
Mais qu'est-ce qu'on veut ?
Des paquets !
Pour qui ?
Pour tous !
Qu'est-ce qu'on veut ?
Des paquets !
Pour qui ?
Pour tous !
Mais qu'est-ce qu'on veut ?
Des paquets !
Pour qui ?
Pour tous !
Mais qu'est-ce qu'on veut ?
Des paquets !
Pour qui ?
Pour tous !
Mais qu'est-ce qu'on veut ?
Des paquets !
Pour qui ?
Pour tous !
Mais des paquets ! Pour tous ! Des paquets ! Des paquets ! Des paquets !
Je suis là pour en hommage aux personnes qui sont décédées dans le naufrage de ce rafio. Et bah, pour manifester nous notre opposition totale à l'établissement des frontières et à l'autorité de l'État qui une fois de plus amène à des tragédies.
Par pierre et mur par mur, nous détruirons les sans nos intentions. Et bien
parler des centres de rétention, c'est des dispositifs qui sont totalement inhumains, c'est des cages à poules. Et déjà de démanteler ces centres de rétention, ce serait déjà montrer qu'il y a une volonté d'aplanir les choses et de rentrer dans un dialogue avec les personnes qui sont de l'autre côté de la frontière, quoi. Et pas seulement de les voir comme des marchandises qui échouent sur le bord des plages, quoi.
Surtout après les naufrages, toutes les politiques. politique européenne se pâme devant ces drames humanitaires en disant tous ces morts, c'est affreux. Ça vise tous les gens qui essayent de rentrer en Europe, donc qui viennent de différents pays d'Afrique, de plein d'endroits. En fait, les frontières sont surmilitarisées par l'Europe qui crée une agence qui s'appelle Frontex, qui est une agence de coopération européenne, en fait, qui est une agence assez autonome, donc ils font vraiment des sales trucs, mais de manière un peu autonome. Du coup, on ne peut pas vraiment dire qui est responsable. Et en fait, plus ils militarisent avec cette agence-là, Frontex, ils ont des bateaux, des hélicoptères, enfin, ils ont tout un tas d'arsenal militaire, et plus ils militarisent les frontières, plus elles deviennent dangereuses pour les gens à passer et plus il y a de morts en mer. Et en fait, ils disent voilà, les morts, c'est horrible. En fait, c'est eux qui créent ces politiques migratoires en ne donnant plus de visa aux gens pour qu'ils puissent venir légalement et en militarisant les frontières, qui fait que les gens prennent toujours plus de risques pour venir parce que les gens vont continuer à venir. Il n'y a pas ce truc de vite protégeons nos frontières parce que, en fait, comme ça, les gens ne viendront plus. C'est faux. Et sauf qu'en fait, c'est pour ça que les gens meurent, parce qu'ils prennent de plus en plus de risques. Parce que, en fait, la mer, elle est surmilitarisée et que les gens veulent migrer. Enfin, il y a toujours eu des migrations et ça continuera. Et il n'y en a pas. Voilà, c'est pas l'invasion. C'est juste un phénomène normal des populations qui migrent. Et
les expulsions, les déportations, on en a marre, on en a marre, on en a marre, 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 assez de barbelés. Europe barricadée, ils font la guerre aux immigrés. Circulation, libre pour toutes et pour tous et sans condition.
Voilà donc le retour sur le rassemblement qui était donc hier. Tout de suite, on va enchaîner sur un article qu'a écrit Saïd Bouamama. Donc c'était le 22 mars, mais toujours à propos des naufrages en mer.
Ouais, alors juste donc pour le présenter rapidement, Saïd Bouamama, c'est un sociologue, militant associatif et animateur du Front uni des immigrations et des quartiers populaires. Donc voilà, il tient un blog et dans lequel donc il publie en mars cet article, le mur meurtrier de la Méditerranée, l'assassinat institutionnel de masse de l'Union européenne. Donc voilà, il commence par rappeler que la Méditerranée est devenue la frontière la plus meurtrière dans le monde. L'année 2014 ayant battu le record macabre d'environ 3500 morts. Voilà, il nous explique en quoi ce ne sont pas des catastrophes imprévisibles, comme on veut bien nous le faire croire, mais bien le résultat de politiques migratoires mortifères. Il insiste sur les angles morts des discours politiques et médiatiques, ces causes en fait structurelles de ces catastrophes à répétition qui sont sciemment invisibilisées et occultées donc par ces mêmes discours politiques et médiatiques. Il y a d'abord les causes économiques, il rappelle ces causes économiques qui poussent des dizaines de milliers d'Africains à risquer leur vie donc dans des traversées de plus en plus dangereuses. Ces causes économiques qui passent évidemment par l'assujettissement des économies africaines aux besoins de l'Europe et non pas à leurs propres besoins. Du coup, il y a les accords de partenariat économique, hein, par exemple, dans la droite ligne des plans d'ajustement structurel qui ont été mis en place au début des années 80. Et il cite l'exemple du dernier accord signé entre l'Union européenne et les 15 États d'Afrique de l'Ouest, qui clairement met les agricultures vivrières locales en concurrence avec l'agriculture industrielle européenne, ce qui contribue évidemment à l'appauvrissement des populations africaines et du coup à l'immigration massive. Donc voilà, il rappelle que ces causes directes de la paupérisation africaine et de la pression migratoire sont tues par le discours politique et médiatique dominant. Voilà, de tels mécanismes, il nous dit, ne sont possibles que par le recours à la force. De l'assassinat des opposants à ces politiques en passant par les coups d'État et les guerres ouvertes. C'est la seconde grande cause de la pression migratoire. Ce n'est pas seulement pour survivre économiquement que des milliers d'Africains risquent leur vie en Méditerranée, mais bien pour fuir les guerres européennes et leurs conséquences en termes d'installation à la fois de régimes dictatoriaux et de seigneurs de guerre avec lesquels le commerce peut continuer. Et si ces causes économiques et militaires permettent de comprendre la hausse de la pression migratoire, elles ne suffisent pas à expliquer l'augmentation du nombre de décès en mer. Pour cela, il faut orienter le regard, nous dit-il, vers les réponses de l'Union européenne à cette pression migratoire. J'ai nommé Frontex, donc on vient d'en parler. Donc pour mener à bien sa première mission de Frontex, qui est bien de surveillance et non pas de sauvetage. L'agence dispose de moyens militaires qui sont en constante augmentation. Donc on l'a vu, une quarantaine d'hélicoptères et d'avions, une centaine de bateaux, environ 400 unités d'équipement, des radars, des sondes, des caméras, etc. On est bien donc, nous dit Boimama, face à une logique de guerre contre les migrants. Et cette logique de guerre les conduit à des prises de risques de plus en plus importantes pour échapper à la surveillance donc de Frontex. Donc après avoir occulté les causes structurelles de la hausse de la pression migratoire et les causes de sa traduction en décès dans la Méditerranée, les discours politiques et médiatiques donc, se centrent sur les passeurs, voilà, qui seraient les seuls responsables de la situation. Et donc la lutte contre les réseaux de passeurs va être présentée comme la solution. Les véritables raisons donc, des drames réguliers de la Méditerranée sont donc encore une fois occultées. Il nous dit que c'est le propre des politiques qui ne veulent pas s'attaquer aux causes d'un problème social que de n'aborder que l'offre et d'occulter la demande. Les pratiques des passeurs ne sont possibles que parce que la politique européenne en crée les conditions. Donc il conclut en disant les travaux de recherche sur les discriminations considèrent qu'une des formes de celle-ci est la discrimination systémique, c'est-à-dire étant la conséquence d'un système et non d'une décision volontaire de discriminer. Nous pouvons emprunter le même concept en ce qui concerne les morts de la Méditerranée. Certes, l'assassinat de ces migrants n'est pas direct. Il est en revanche, le résultat inéluctable des politiques de l'Union européenne, tant dans sa politique africaine que dans sa politique migratoire. Voilà pour l'article de Saïd Boimama.
Donc il l'a retrouvé sur son blog, j'imagine.
Ouais.
Ok, on en a du coup en intégralité, quoi.
Ouais. Ouais.
Ok, ok.
Et du coup, face à toute l'hypocrisie de tous des réels responsables, quoi, en fait, il y a quand même moyen de trouver des moyens d'éviter ces choses-là. Et du coup, on avait trouvé un truc qui s'appelle l'alarme phone. Donc, ouais. L'article qui s'appelle Watch the Med.
Tout à fait. Du coup, qu'est-ce que c'est ? Alors, en fait, au départ, il y a un réseau qui s'appelle Boat for People, qui est une coalition d'organisations, d'activistes et de migrants ancrés sur les deux rives de la Méditerranée. Leur première action s'est déroulée en juillet 2012, suite aux plus de 2000 migrants morts en mer en 2011. Ils sont partis avec un bateau en Méditerranée. Il y a eu des actions de protestation, des rassemblements, des conférences de presse à travers plusieurs pays de la Méditerranée. Et du coup, ils ont créé une plateforme qui s'appelle Watch the Med, en français Observe la Méditerranée, qui est une plateforme en ligne qu'on peut retrouver sur Internet sur watchthemedtoutattaché.net. Et en fait, c'est un observatoire transnational contre les injustices meurtrières en mer. Je vais vous lire un petit peu leurs objectifs. C'est un site super complet. Bon, c'est en anglais. Il y a certains fly qu'on peut retrouver en français. Mais du coup, je vais vous lire la partie en français.
Merci.
Donc, Watch the Med vise à documenter la violence des frontières maritimes. Cette documentation est utilisée comme outil de lutte en exerçant une pression sur les autorités afin qu'elles respectent leurs obligations en mer, en soutenant les campagnes des familles des morts et disparus et portant plainte contre ceux qui violent les droits des migrants en mer. Pour s'opposer à l'injustice et aux morts en mer, Watch the Med vise à créer un réseau durable de collaboration en Méditerranée et au-delà. Dans cette perspective, des informations concernant les règles de sécurité et les droits et obligations en mer sont distribuées aux migrants, pêcheurs et marins. Watch the Med utilise des nouvelles technologies pour inscrire des cas de violation dans la géographie politique et légale complexe de la Méditerranée, à travers le récit de survivants et de témoins, mais aussi l'analyse des courants marins et des vents, des données des téléphones mobiles ou des images satellites. Il est possible de déterminer dans quelle zone SAR, le secours en mer, juridiction et zone d'opération, un incident s'est produit, ainsi que de déterminer la présence d'autres bateaux dans cette zone. Ces informations sont recueillies sur une plateforme en ligne interactive. Watch the Med est donc à la fois un réseau et un outil qui devrait permettre de documenter les violations rapidement dans le but de faire pression sur les autorités pour qu'elles respectent leurs obligations et avec précision pour établir les responsabilités des violations qui sont le produit structurel de la politique de fermeture de l'Union européenne. Donc voilà, donc sur ce site, vous pouvez retrouver des cartes avec, avec beaucoup de détails, comme ils expliquent, les courants, des cartes un peu morbides avec les nombres de morts aux frontières de l'Union européenne.
Les nombres de morts connus, quoi, du coup, parce qu'il y en a plein que
ouais, c'est
coup,
ça. Et puis,
connaître, quoi.
Oui, sans parler de ceux qui sont en centre de rétention. Dans plein de pays dans lesquels ils subissent plein de violations, etc. Et donc, via Watch the Med, ils ont créé un alarm phone qui est en fait un numéro d'alerte fonctionnant 24 heures sur 24 pour faciliter le sauvetage des migrants en mer. Donc en fait, comme c'est expliqué sur la plateforme, c'est vraiment un numéro de téléphone que tu appelles pour si jamais il y a un problème avec l'embarcation sur laquelle tu es monté, pour pouvoir ensuite avertir les gardes-côtes et faire pression. Parce qu'en fait, ceux qui sont sur les bateaux, ils avertissent les gardes-côtes si jamais ils ont un problème. Sauf que il y a des témoignages justement dans ce site sur des gardes-côtes qui prennent pas au sérieux les appels au secours des bateaux.
Qui s'en foutent,
ou
quoi,
ou qui s'en foutent, ou qui vont, hop, qui font demi-tour, qui mettent le bateau à l'envers et qui le repoussent vers les eaux bien à l'extérieur de l'Europe pour qu'ils aillent mourir un petit peu plus loin. Donc c'est ultra cynique. Mais en tout cas, il y a des gens qui s'organisent. Sur la plateforme aussi internet, il y a les numéros des gardes-côtes des différents pays concernés, comme l'Espagne, le Maroc, l'Italie, Malte, la Libye, la Tunisie, la Grèce et la Turquie. Et du coup, c'est de dire de donner l'information aux migrants avant qu'ils montent sur le bateau pour pouvoir appeler ces personnes qui ont une veille en fait avec ce téléphone. Ils l'ont, ils écoutent. Si jamais il y a un appel, eux, ils font pression sur les gardes-côtes en connaissant la géolocalisation des personnes qui les appellent et sans lâcher le morceau en disant « il y a ce bateau à tel endroit, on sait qui vous a appelé, il faut y aller, il faut y aller ». Et du coup, c'est vraiment faire pression pour que les choses, elles, bougent. Donc voilà, il y a eu un article qui est paru en mars dans un journal qui s'appelle CQFD, qui raconte un peu ce que c'est que cette alarme phone. Il y a une personne qui est interviewée qui s'appelle New Rose, qui est une personne kurde qui fait partie du réseau Watch the Med et qui raconte un peu son expérience autour de ce téléphone. Elle nous dit que les premières interventions directes de l'alarme phone ont eu lieu le 14 novembre 2014. C'était un bateau avec 200 migrants à bord qui était sur le point de chavirer au large des côtes libyennes. Le père Moussi Serra, il les a mis en contact avec nous. Moteur en panne, voie d'eau, une femme morte à bord, une autre en train d'accoucher d'un bébé mort-né. Bon. Bref, alerter la marine à ramener les survivants en Italie. Donc en fait, ça marche. Il y a plein de rapports aussi sur les différentes opérations effectivement qui fonctionnent via ce système d'organisation. Du coup, cette personne, elle nous raconte aussi, elle compare un peu les forces de ce type de réseau avec Frontex. Elle dit que, bon, même grâce aux maigres moyens qu'ils ont, ils ont la possibilité de dénoncer publiquement les agissements de Frontex. Nous faisons savoir que ces gens ne sont plus seuls, qu'ils ne vont pas disparaître corps et âme et que sans que personne ne le sache, comme cela arrive trop souvent. Donc voilà. Alors un peu de chiffres par rapport à ces opérations. Fin 2014, en l'espace de 2 mois, 12 interventions ont eu lieu à la suite d'appels à l'aide répercutés par Alarm Phone, avec différents niveaux de détresse et d'abus comme contre les droits humains. Le 5 décembre 2014, l'association Caminando Fronteras, membre de Watch the Med, alerte les sauveteurs espagnols de la dérive d'un Zodiac chargé de 57 personnes au large d'Almeria. Les secours ont réussi à ramener 29 survivants. Donc voilà, nous ne pouvons pas abandonner nos frères et nos sœurs seuls face à l'hypocrisie d'une Europe qui les attire tout en les repoussant, conclut Neurose, donc cette même personne interviewée. Vous pouvez retrouver les articles de CQFD sur internet aussi. Donc voilà, il lance également un avis à contribution, à participation, à engagement pour faire partie de ce réseau. Vous pouvez trouver leurs contacts sur la plateforme, donc je l'ai dit tout à l'heure, watchthemed.net il me semble. Et donc voilà, toute oreille attentive est la bienvenue. Je vous lis juste un petit bout du communiqué qu'ils ont fait face aux naufragés qui potentiellement auraient pu être réfugiés, malheureusement. Donc voilà. Ces dernières semaines, nous, numéro d'alerte Watch Summed, sommes devenus les témoins directs de la lutte pour la survie, de la mort sur ces embarcations, de l'angoisse des proches. Nous avons également été témoins de la manière dont les gardes-côtes d'Italie et de Malte, ainsi que l'équipage de navires commerciaux, ont fait preuve de beaucoup d'efforts, mais ont souvent été dans l'impossibilité d'empêcher les morts, faute de disposer de l'équipement suffisant pour mener des opérations de secours. Et ceci est dû aux décisions politiques faites au niveau de l'Union européenne. La forteresse Europe a causé 10 000 morts en Méditerranée au cours des 25 dernières années. Les responsables sont les politiciens et forces de police qui ont créé, à travers le régime de Schengen, l'obligation générale de visa et la traque organisée de réfugiés et de migrants sans visa. Ce sont les politiciens, les forces policières et militaires qui ont établi Frontex au cours des 10 dernières années et ont transformé la mer Méditerranée entre la Libye et l'Italie depuis le printemps arabe en une zone de haute sécurité. Ce sont les politiciens de l'Union européenne qui ont décidé le 27 août 2014 à Bruxelles de réduire l'opération de secours italienne Mare Nostrum et d'instaurer une politique de dissuasion à travers l'opération de Frontex Triton sur l'Eau côte italienne. Ils portent la responsabilité des milliers de morts survenus dans la zone maritime, comprise entre la Libye et l'Italie. La mort doit prendre fin. Nous exigeons la création immédiate d'une ligne directe de ferry pour les réfugiés à partir de Tripoli et d'autres pays de l'Afrique du Nord vers l'Europe. Nous exigeons la création de voies sûres et légales pour les réfugiés, leur permettant de rejoindre des lieux de refuge sans être obligés de risquer leur vie. Nous appelons à une action directe et immédiate contre ces décisions et doctrines politiques meurtrières de l'Union européenne. Watch the Med Armphone.
Voilà, et pour aller peut-être pas forcément plus loin, mais en tout cas pour avoir encore un nouveau point de vue, eh bien à partir du 8 mai à Canal Sud, puisque Canal Sud c'est une radio mais c'est aussi une salle d'exposition, il y aura une exposition qui s'intitule Vis et Visa et qui en fait retrace à travers des gravures, des photos et des textes le témoignage en fait d'un Djiboutien, d'un homme qui a traversé la Méditerranée sur un de ses bateaux, c'était en 2005 ou 2006, et en fait il est arrivé en Europe par chance, mais il a bien failli y rester, donc il y a des gravures, des photos et des textes qui retracent son histoire. On voulait aussi diffuser le son de Fatou Diomé, mais je crois que là on est un petit peu pris par le temps, donc si vous souhaitez écouter son témoignage, en fait c'est une écrivaine sénégalaise qui est passée à la télé il y a quelques jours dans l'émission Ce soir ou jamais sur France 3, et donc qui a bien balancé sur les responsabilités en tout cas de tout un chacun concernant les morts en Méditerranée, et donc il y a des extraits qui sont consultables sur internet. On va peut-être pas les diffuser, on va passer à une musique et puis après on va enchaîner.
J'ai des nouvelles de notre envoyé spécial en direct du studio qui nous dit que oui, nous avons 5 minutes pour diffuser le son de Fatou Diomé.
On nous dit dans l'oreillette. allons-y.
Et peut-être juste avant de balancer le son, il y a le numéro de téléphone de l'Alarmphone qui est disponible sur leur site, je peux le donner si jamais vous connaissez des gens ou des proches qui seraient susceptibles d'en avoir besoin. Donc c'est c'est le 334 et après c'est 86 51 71 61. Mais n'hésitez pas à aller sur le site, vous retrouverez toutes ces infos.
Du coup, on va pouvoir écouter, puisque l'oreillette nous dit que oui. Fatou Diomé, là, donc c'était dans l'émission Ce soir ou jamais. Elle répondait à 2-3 fachos qui étaient sur le plateau. Enfin, en tout cas, 2-3 fachos institutionnels, on va dire, puisqu'ils sont quand même à la télé. Et qui étaient sur le plateau, et elle répondait sans langue de bois. Ça vaut le détour, c'est pas mal.
Quand vous dites que l'immigration pose un problème, il faut aussi parler des avantages de l'immigration. Parce que moi, quand je travaille en France, je paye mes impôts ici. Donc les étrangers qui sont là, il y a une partie qui peut travailler et envoyer au pays aider. La majorité paye ses impôts, s'installe dans vos pays, enrichit vos pays. Mais je voulais souligner une chose. Le discours que vous avez, il est encore légitime tant que l'Afrique restera muette. Et moi, aujourd'hui, je voulais m'indigner pour le silence de l'Union africaine. Les gens là qui meurent sur les plages, et je mesure mes mots, si c'était des blancs, la terre entière serait en train de trembler. Ce sont des Noirs et des Arabes. Alors eux, quand ils meurent, ça coûte moins cher. L'Union européenne, avec ses flottes de guerre, avec son économie, je vous dis une chose, si on voulait attaquer nos pays ici en Occident, il y aurait des moyens de se défendre. Donc si on voulait sauver les gens dans l'Atlantique, dans la Méditerranée, on le ferait. Parce que les moyens qu'on a mis pour Frontex, on aurait pu les utiliser pour sauver les gens. Mais on attend qu'ils meurent d'abord. C'est à croire que le laisser mourir est même un outil dissuasif. Et je vais vous dire une chose, ça ne dissuade personne. Parce que quelqu'un qui part et qui envisage l'éventualité d'un échec, celui-là peut trouver le péril absurde et donc l'éviter. Mais celui qui part pour la survie, qui considère que la vie qu'il a à perdre ne vaut rien, eh bien celui-là, sa force est inouïe. Parce qu'il n'a pas peur de la mort. Au jour d'aujourd'hui, l'Europe ne sera plus jamais épargnée tant qu'il y aura des conflits ailleurs dans le monde. L'Europe ne sera plus jamais opulente tant qu'il y aura des carences ailleurs dans le monde. On est dans une société de la mondialisation où un Indien gagne sa vie à Dakar, un Dakarois gagne sa vie à New York, un Gabonais gagne sa vie à Paris. Que ça vous plaise ou non, c'est irréversible. Alors trouvons une solution collective ou bien déménager d'Europe parce que j'ai l'intention de rester. Je veux juste dire que depuis quelques années, on a une espèce d'abus de langage qui a introduit des amalgames. Au jour d'aujourd'hui, toute personne typée avec un air d'étranger est considérée comme immigrée. Tous les étrangers, en tout cas toutes les personnes d'origine étrangère qu'on peut rencontrer en Europe ne sont pas forcément des immigrés. Donc il y a des gens qui sont normalement protégés par la Convention de Genève pour les réfugiés. Quelqu'un qui fuit la guerre, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui cherche du travail. Quelqu'un qui fuit la guerre est protégé par la Convention de Genève. Et quand on a parlé ici à l'époque, je ne veux pas remuer les mauvais souvenirs, mais ministère de l'Immigration et de l'Identité Nationale, on a fait des réfugiés presque des coupables de droit commun. Or, quelqu'un qui voyage librement peut respecter ces choses-là. Quelqu'un qui fuit la guerre pour survivre n'a pas le temps de respecter ces choses-là. Or, aujourd'hui, on met l'amalgame et on met tout le monde dans le même sac. Je voudrais aussi dire que quand vous êtes Canadien, blanc ou argentin et vous venez vous installer en France, vous êtes un expatrié. Et si vous êtes africain ou indien ou afghan, vous venez en France ou en Allemagne, vous êtes l'immigré, peu importe les raisons pour lesquelles vous êtes là. Et donc cette représentation de l'autre, l'Europe doit corriger son regard si elle ne veut pas encourager la xénophobie. Parce que la représentation qu'on se fait de l'autre alimente ensuite le repli sur soi, le rejet. Des familles entières qui cotisent parfois pour faire partir quelqu'un, et c'est pas 1000 euros, parfois ça va entre 1500 euros et 7000 euros. Ouais. Quand vous, quelqu'un part, c'est comme quelqu'un qui est élu, choisi, peut-être le plus débrouillard. Et il y a tout un clan ou toute une famille qui pose son espoir sur cette personne-là. Monsieur, là, je vous vois bien habillé, bien nourri. Si vous étiez affamé chez vous, peut-être que votre famille serait ravie d'imaginer que vous pourriez aller gagner de quoi faire vivre les autres. Donc c'est aussi une solidarité qui est en œuvre. On laisse partir quelqu'un, on compte sur lui. Vous allez me laisser terminer. Et Schengen, entre guillemets Schengen, ça me permet d'être invité aux Pays-Bas, monsieur, donner des conférences dans vos universités. Quand ils trouvent que mon cerveau est convenable, là, ils l'utilisent. Par contre, ils sont embêtés à l'idée d'avoir mon frère qui n'est pas aussi diplômé que moi et qui pourrait avoir peut-être envie de travailler dans le bâtiment. Donc vos pays deviennent schizophrènes. On ne peut pas trier les gens comme ça avec les étrangers utiles et les étrangers néfastes. Et la deuxième chose que je veux dire aussi, c'est que les Européens, là on voit des Africains qui viennent, d'accord ? Ce mouvement, ce déplacement de population, on le voit. Mais on ne voit pas le mouvement des Européens allant vers les autres pays. Alors celui-là, c'est le mouvement des puissants, ceux qui ont l'argent, ceux qui ont le bon passeport. Donc vous allez au Sénégal, vous allez au Mali, vous allez dans n'importe quel pays du monde, au Canada, aux États-Unis. Partout où je vais, et je voyage tout le temps, je croise des Français, des Allemands, des Hollandais. Je les rencontre partout sur cette planète parce qu'ils ont le bon passeport. Donc, comme avec l'exotisme, l'Europe s'était arrogé le précepte unique, unilatéral, de l'exotisme. Les autres sont exotiques. Alors que pour quelqu'un de mon village, il n'y a rien de plus exotique que quelqu'un d'Amsterdam. Maintenant, pour l'étranger aussi, pour les voyages des temps modernes avec la mondialisation, quand les pauvres viennent vers vous, il y a des mouvements de foule qu'il faut bloquer. Mais quand vous, avec votre passeport et avec toutes les prétentions que cela donne, vous débarquez dans les pays du tiers-monde, là, vous êtes en terrain conquis. Vous avez besoin qu'on reste dominé pour servir de débouché à l'industrie européenne. Alors, il faut arrêter l'hypocrisie. On sera riche ensemble, on va se noyer tous ensemble. Voilà.
Bim, dans ta gueule.
Non, c'est pas Data Gueule, ça, c'était sur France 3, ça. Ouais, donc c'était Fatou Diomé, donc Fatou c'est son prénom, Diomé c'est son nom. Et donc elle est écrivaine, elle est sénégalaise, et il y a moyen de retrouver pas mal d'interventions d'elle sur internet. Et il y a moyen de se procurer ses livres aussi, j'imagine. Je me suis pas assez renseigné là-dessus pour vous en dire plus. Eh bien, ouais, on va terminer la chronique de la clim avec quelques dizaines de minutes de retard, pour pas dire plus. On vous annonce quand même que le 13 mai à la chapelle, la clim organisera une projection d'extrait du documentaire intitulé L'Aventure, qui a été réalisé par Grégory Lassalle. Grégory Lassalle, il a suivi des migrants en Turquie, puis en Grèce, puis dans les Balkans, à travers de nombreux passages de frontières, et il a écrit un livre sur ce documentaire, enfin un livre et un documentaire qu'il a réalisé à propos de ces histoires-là. Il sera présent pendant pour cette projection, donc le 13 mai à 19h à la chapelle. Il y aura également un des migrants qu'il a suivi, qui a fini par arriver en France, qui sera également présent le 13 mai à la chapelle. Et donc on vous invite, le prix d'entrée sera libre, et il y aura 2-3 trucs à grignoter et à boire. À noter également aussi un rendez-vous à venir le 7 mai, donc jeudi 7 mai, c'est tout bientôt je crois, c'est jeudi prochain. Eh bien il y aura une réunion de la CLIM, donc du collectif de lutte et d'information migrants-migrantes, je ne suis pas sûr qu'on l'ait dit depuis le début de la chronique. Et donc ce sera également à 19h, et c'est à la pizzeria Belfort, donc place Belfort à Toulouse. Que dire de plus ?
Que la chapelle, c'est 36 rue Daniel Casanova.
Merci. Et si on rendait les studios ?
Et si on va peut-être donner l'adresse du blog très rapidement. Donc le blog, c'est clime.noblogs.org, on l'a déjà dit. Et puis l'adresse mail aussi, clim@riseup.net. Riseup, R-I-S-E-U-P.net. Voilà, et ben on écoute un peu de musique et puis on revient avec...
Vous avez peut-être enchaîné direct sur Bruitol, non ? Parce que sinon, je mets directement le générique de fin.
Et bah, t'as qu'à mettre le jingle de la clim, et puis après, on enchaîne sur Bruitol.
Allez.
Bonne. Enfin, voilà, ouais, à bientôt, salut. Quoi, au mois prochain.
Ciao.
À
bientôt.
De l'air.